1 Corinthiens 8.
So 1 Corinthians 8.
Nous arrivons à peu près à la moitié du livre, puisqu'il y a 16 chapitres dans Corinthiens.
We're almost halfway through the book.
Et si vous vous souvenez, nous avions dit qu'après avoir déploré des problèmes d'unité, ce qu'il déplorait, c'était le manque d'unité dans l'Église.
He was deploring the lack of unity in the church.
Il en est venu à parler, à répondre à des questions qu'on lui avait posées par courrier.
And then he began answering questions that had been posed to him through the mail.
Et une de ces questions, vous vous souvenez, c'était tout ce qui concernait le mariage, le célibat, le divorce.
And you may remember that some of these questions dealt with marriage, celibacy, divorce.
Et je vous invite, si vous n'avez pas pu être là, à emprunter les cassettes. Il y a 3 messages sur ce sujet.
And I invite you, if you were not able to hear, to get some cassettes of these messages.
Et aujourd'hui, il aborde une autre question.
And today we're going to deal with another question
qui reste toujours d'actualité pour nous chrétiens.
That is still today an actuality for us as Christians.
Et on pourrait la résumer en disant, devrais-je laisser l'opinion des autres contrôler ma conduite?
And we could summarize it in a question, should I let my
the opinions of others.
Should I let the opinions of others guide my actions?
C'est plus que la peur du qu'en dira-t-on, de ce que vont penser les gens.
This is more than the fear of what others will say.
Mais est-ce que la question c'est, est-ce que je dois limiter ma liberté parce que d'autres chrétiens ont des conceptions étriquées, étroites?
Question is the idea of, do I need to limit my freedom because other Christians have stricter ideas?
La Bible n'est pas un livre de cuisine de recettes.
The Bible isn't a cookbook, a book of recipes.
Ce n'est pas un recueil très précis de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on ne peut pas faire.
And it's not a very precise collection of all that we can do and cannot do.
En général, on multiplie les règlements lorsque les gens ne veulent pas les respecter.
In general, there's a tendency to increase rules by the people who don't want to obey them.
Il faut envisager tous les cas et bien définir les situations.
They have to look at every situation and define it.
La Bible, elle parle à notre cœur.
The Bible speaks to our heart.
Elle veut transformer notre cœur.
And is to transform our heart.
Et quelqu'un, certains disent que c'est Saint François d'Assise ou Saint Augustin qui disait « Aime Dieu et fais ce que veut ».
Someone said that either Saint Francis of Assisi or Thomas Aquinas said « Love God and do as you wish ».
Parce que si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme, alors tout ce qu'on voudra faire ne pourra pas être mal.
Anything and everything that we want to do would not be bad.
Et du fait que la Bible ne donne pas des règles de vie pour toutes les situations,
the idea or fact that the Bible does not give rules for every situation.
Il y a des activités qui peuvent poser question.
That would cause questions.
On y viendra un peu plus tard, voir aujourd'hui quels sont ces genres d'activités.
And we'll get back to those today to see what types of activities.
Mais à l'époque, elle se posait cette question de savoir si je devais me laisser contrôler par l'opinion des autres.
But in their day, the question was raised, should I be guided by the opinion of others?
Elle se posait dans un cadre qui ne nous touche plus vraiment tellement.
And it was asked in a situation that doesn't really relate to us, touch us.
La question, c'est de savoir si oui ou non, on pouvait manger de la viande qui avait d'abord été sacrifiée à des idoles.
question was raised relative to whether they were able to eat meat that had been sacrificed to an idol.
Et on va voir comment la réponse de Paul nous définit un principe toujours valable aujourd'hui.
And we'll see how Paul's answer gave us a principle that is valid today.
Nous allons lire les versets 1 à 6 et voir le problème et deux façons d'y répondre.
Let's read verses 1 through 6 to see the problem and the two possible answers.
Verset 8, chapitre 8, verset 1, je lis dans la version à la colombe. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. À propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et de beaucoup de seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Le problème, c'est donc que pour se procurer de la viande, on n'allait pas dans un supermarché à l'époque. Il y avait le marché.
So the problem was that to buy meat, they didn't go to supermarkets in their days. There was the market.
Où on vendait de la viande directement abattue et préparée pour le marché.
Where they sold meat that had been prepared for the market.
Mais à côté de cette viande qui était plutôt chère,
but next to this meat, which was fairly high priced,
il y avait la viande qui avait été servie de sacrifice dans les temples païens.
There was the meat that had been used as a sacrifice in the pagan temples.
Comme les Juifs dans l'Ancienne Alliance, les païens offraient des sacrifices sous forme d'animaux.
Just like the Jews in the Old Testament, the pagans also offered meat and animals as sacrifices.
Les prêtres de ces temples païens en consommaient une partie.
The priests of these pagan temples.
Et un exemple que vous connaissez tous, c'est celui d'Abraham et de son neveu Lot.
And an example that you all know is of Abraham and his nephew Lot.
Dans la Genèse, on peut regarder ensemble. Genèse 12. L'Éternel avait promis à Abraham de faire de lui une grande nation, de le bénir, de rendre son nom grand.
God had promised Abraham to make of him a great nation, to bless him and also to make his name great.
Qu'il deviendrait une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre.
And that he would become a source of blessing to all the families of the earth.
Plus loin au chapitre 15.
And then a little further on in chapter 15.
Il lui avait promis de lui donner ce grand pays, la terre promise.
He promised to give him that great country, the promised land.
Verset 7, il lui dit encore, je suis l'Éternel, verset 7 du chapitre 15, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession.
And in verse 7 of chapter 15, he says, I am the Lord who brought you out of Ur and of the Chaldeans to give you this land to possess it.
Plus loin, verset 18, en ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, etc.
And a little further on in verse 18, the Lord says that he will give to your descendants the land from the river of Egypt, and he itemizes all that he's giving him.
Et puis, vous vous souvenez qu'il y avait une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot parce que leurs troupeaux se multipliaient.
Remember, there was an argument between the shepherds of Abraham and Lot over where their flock were grazing.
Et Abraham avait décidé qu'il valait mieux qu'ils se séparent, Lot et lui-même.
So Abraham decided that it would be better for the two of them to separate.
Et là, c'est c'est Abraham qui avait la priorité en quelque sorte.
And Abraham, of course, has priority.
C'est à lui que Dieu avait fait la promesse.
Because God gave the promise to him.
Mais là aussi, par humilité, par amour, il a laissé à son neveu le choix.
But out of humility and love, he gave the choice to his nephew.
Et on sait que Lot fit le mauvais choix, il prit la terre qui avait l'air la plus prospère, et c'était à côté de Sodome et Gomorre, et ça lui a valu bien des ennuis. Et Paul ici, il parle dans le contexte qu'on a vu la semaine dernière.
And so, Paul in Corinthians is speaking in the context that we studied last week.
Celui des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles.
When he was talking about the meat that had been sacrificed to idols.
Certains des Corinthiens se disaient qu'après tout, ils avaient toute liberté de manger cette viande. Les idoles ne leur faisaient pas peur parce que c'était des faux dieux.
Some of the Corinthians thought that they were totally free to eat of this meat that had been sacrificed.
Mais d'autres, plus nouveaux dans la foi, avaient plus de scrupules à manger cette viande qui avait été associée à ces idoles. Et eux, ça les gênait beaucoup, et Paul leur disait, faites attention.
And it bothered them a lot. And Paul warned them, be careful.
Surtout à ceux qui se prévalaient de leur liberté totale en Christ.
Speaking especially to those who weighed their freedom in Christ.
Que leur liberté, elle devait prendre le second plan.
And told them that their freedom should take second place.
Que la première chose, ça devait être l'amour pour leurs frères nouveaux dans la foi.
And that the first thing should be their love for their brothers new in the faith.
Et qu'ils ne devaient surtout pas leur causer de tomber dans leur foi. Donc la connaissance de sa liberté, c'est bien, mais l'amour qui régule l'usage de cette liberté, c'est mieux.
So the knowledge of their freedom is an excellent thing, but more important is the love that directs and guides this freedom.
Et le dernier verset du chapitre 8, Paul résume sa position. Il dit, si un aliment fait tomber mon frère, s'il le conduit à douter de sa foi, à l'abandonner, jamais plus je ne mangerai de viande afin de ne pas faire tomber mon frère.
And Paul summarizes in the last verse of chapter 8 when he says, if food causes my brother to stumble, I will never eat meat again that I might not cause my brother to stumble.
Voilà, nous allons donc commencer à lire le chapitre 9.
So we're going to begin to read chapter 9.
Et nous allons voir que Paul va leur rappeler sa qualité d'apôtre.
And we're going to see that Paul reminds them of his qualifications as an apostle.
Pour leur montrer que lui a renoncé aussi à des droits qu'il a normalement.
To show them that he himself has given up the rights that he normally has.
Lisons ensemble. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui me font un procès. Paul a l'habitude de poser des questions rhétoriques, on appelle ce genre de questions.
Paul has a habit of asking rhetorical questions.
Ce sont des questions qui attendent des réponses évidentes.
They're questions that have an obvious answer.
Lorsqu'il dit « Ne suis-je pas libre ?» la réponse est « Bien sûr que oui ». « Ne suis-je pas apôtre ?» Bien sûr que oui.
And when he says « Am I not free ?» the answer obviously is yes. « Am I not an apostle ?» Obviously he is.
Il est libre parce qu'il est chrétien.
He's free because he's a Christian.
Et en Christ, nous avons rappelé la semaine dernière que nous avons la vraie liberté.
In Christ, last week we spoke about it, we have true freedom.
Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie.
He said that I am the way, the truth, and the life.
Et quand on connaît cette vérité, elle nous libère, il nous a dit dans Jean. Il leur dit ensuite, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Un apôtre, c'était quelqu'un qui avait été appelé par Jésus-Christ pour proclamer la bonne nouvelle. Ça veut dire simplement envoyé en mission. Une des qualifications, c'était d'avoir justement vu le Christ ressuscité. Et est-ce que Paul n'avait pas vu Jésus-Christ? Il l'avait vu, si vous en souvenez, sur le chemin de Damas. Cette grande lumière qu'il avait fait tomber de cheval, qui lui avait parlé en disant, pourquoi tu t'obstines contre moi? Et justement, lorsque les apôtres avaient décidé de remplacer Judas, dans Actes 1:22, il rappelle justement il faut, verset 22, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection.
In verse 22, it says, one of these should become a witness with us of his resurrection.
Donc c'était une des premières qualifications, c'était d'avoir vu le Christ ressuscité.
So one of the first requirements was to have seen.
Et il leur dit, vous savez bien que je l'ai vu ressuscité.
So Paul saying, you know I saw Jesus Christ.
Un des autres signes, c'était d'avoir fait des œuvres et des signes miraculeux.
And another qualification was to have performed or done miraculous works.
Paul en avait accompli.
Paul had done this.
On le lit dans le livre des Actes.
We read about it in the book of Acts.
Et aujourd'hui, on parle des fois d'apôtres vivants.
And today, at times we speak of living apostles.
On parle d'apôtres pour des gens dans certains milieux d'église.
And in certain church circles,
les apôtres, ce sont des personnes qui ont fondé des églises.
Apostles are people who have founded churches or church movements.
Et on peut, j'ai pas de problème avec cette utilisation, si tant est qu'on reconnaît qu'il y a une grande différence avec les apôtres du temps de Jésus et de Paul. Parce que leur autorité, elle est inégalée aujourd'hui. Ils avaient une telle autorité que Dieu les a utilisés pour écrire la parole. L'autorité des apôtres, entre guillemets, aujourd'hui, c'est ils attirent de cette parole de Dieu. Quelqu'un pourrait dire que Chuck Smith, le fondateur de Calvary Chapel, dans le sens qu'il a fondé des églises de par beaucoup de pays, un apôtre.
Some prefer or choose to call Chuck Smith, the founder of the Calvary Chapel movement, an apostle.
Dans ce sens, mais lui-même, il sait que son autorité, elle est dans la Bible, dans la parole que Dieu a révélée à ses apôtres et à ceux qui l'ont écrit, aux prophètes.
But he himself acknowledges that his authority is in the word of God that's been revealed to himself as well as the apostles.
Et Paul, il utilise l'existence même de cette église de Corinthe.
And Paul uses the very existence of the church in Corinth
comme un signe de son apostolat.
As a sign of his apostleship.
Il leur dit en quelque sorte, vous êtes mon œuvre dans le Seigneur. Autrement dit, vous êtes la preuve vivante que j'ai eu un ministère, que j'ai un ministère d'apôtre.
That I have the ministry of an apostle.
Et c'est vrai qu'un vrai ministère doit porter du fruit.
And it's true that a real ministry should bear fruit.
Jésus a dit dans Jean 15,
Jesus told us in John 15,
mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits.
My Father is glorified in this, that you bear much fruit.
Est-ce que par notre ministère ça peut être un ministère pas un ministère à temps plein.
Ministry can be ministry on a part-time basis.
Ça peut être dans notre vie de tous les jours en tant que chrétien, nous avons tous un ministère de parler de lui.
It can just be something that happens in our daily lives as a Christian, we all have a ministry.
S'il y a vraiment un service ordonné par Dieu, il va y avoir des fruits.
If there is something that's been really ordained of God, there will be fruit.
Il va y avoir des nouveaux croyants, des personnes qui vont découvrir Dieu par votre intermédiaire. D'autres qui vont être encouragés par ce que vous allez pouvoir leur dire, les paroles de la parole de la Bible que vous allez pouvoir leur répéter, les encourager. Et c'est vrai que on peut se demander si une église ne grandit pas. Est-ce qu'elle est vraiment instituée par Dieu?
Is it really ordained of God?
Si dans 10 ans on est toujours dans cette salle, une vingtaine, on est en droit de se poser des questions.
We have the right to pose the question.
Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la croissance numérique.
We don't need to fear numerical growth.
Quelquefois, ça peut paraître plus spirituel de dire on est peu, mais on est, il y a une telle amour.
Sometimes it seems more spiritual to say we're small, but we have such love.
Non, on est le corps de Christ, ça doit être vivant, ça doit être en bonne santé, ça doit grandir.
But we are the body of Christ and we need to be alive and growing.
Et c'est vrai qu'on ne doit pas être là à compter tous les dimanches combien de personnes sont là. Mais c'est vrai que le fruit ou l'absence de fruit, ça doit me poser des questions, ça doit nous poser des questions dans notre vie de chrétien. Paul, il a donc rappelé, je suis apôtre, vous en êtes la preuve, il y a une église maintenant à Corinthe.
So Paul's reminding them that he's an apostle, and the proof is that there is a church now in Corinth.
Et quelque part, c'était peut-être vraiment miraculeux qu'il puisse y avoir une église. C'est toujours miraculeux de voir des gens venir à Christ.
And somehow it is miraculous when a church comes into being, or when people come to know Christ.
Et maintenant, il va leur faire la liste assez détaillée de tous ses droits en tant qu'apôtre.
And now he's going to give a pretty detailed list of all his rights as an apostle.
Versets 4 à 6, lisons, il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Donc là, il parle d'abord du droit de se nourrir, de boire. Et en fait, pour bien comprendre son propos, on peut ajouter, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire aux frais de l'Église de Corinthe? Il fait la remarque que lui aussi pourrait très bien être marié. Et que là aussi, l'Église devrait supporter sa famille.
And that in that case, the church should support his family.
Et puis il a cette phrase intéressante, il dit, est-ce qu'il y a seulement Barnabas et moi qui n'avons pas le droit de ne pas travailler?
And then in verse 6, he asks an interesting question, do only Barnabas and I not have a right to refrain from working?
Et c'est les doubles négations qui veulent dire le positif.
So it's a
Les Grecs méprisaient le travail manuel.
Aversion to manual labor.
Aujourd'hui, on a des tas de machines qui nous aident à faire ce travail manuel.
Today we have a lot of machines that help us with manual labor.
Il y a même des pistolets à peinture pour Mike.
There's even spray paint machines for Mike.
À l'époque, ils n'avaient pas les machines, mais ils avaient la main d'œuvre. Ils avaient les esclaves qui faisaient tout ce travail méprisant.
In that time, they didn't have all those machines, but they had a lot of labor, men, slaves who were there to do the work.
Et il disait, en fait, Barnabas et moi-même, on aurait le droit aussi de ne pas faire un travail manuel en plus du travail spirituel que nous faisons. Vous souvenez qu'il faisait des tentes, il fabriquait des tentes, on pense avec du cuir. Et il disait, franchement, j'aurais le droit d'arrêter ce genre de travail pour me soutenir. Je devrais pouvoir être soutenu par l'Église. Au passage, il est bon de rappeler que Paul montre qu'il a des besoins comme tous les hommes.
And in passing, it's good to note that Paul states that he has needs like every other man.
Le droit de manger, de boire, d'être marié,
the need to eat, to drink, to be married,
de retirer un salaire de son travail.
And to get paid for his work.
Ça, c'est important de jamais mettre les pasteurs, les missionnaires, ceux qui travaillent à temps plein pour le Seigneur, dans une catégorie à part.
And it's good to remember never to put pastors, missionaries, people in full-time work for the Lord. Never put them in a category separate.
Il n'y a pas des révérends.
There's no reverends.
Et puis des hommes du peuple.
And then the men of the people, the working class.
Ça, c'était l'ancienne alliance.
That was the old covenant.
Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous un peuple de sacrificateurs.
And in the new covenant, we are a kingdom. We are all priests.
Nous avons seulement des dons différents qui doivent s'exprimer naturellement dans le corps de Christ. Mais surtout, ne jamais mettre les hommes sur des piédestals, on dit. La gloire appartient seulement à Jésus. Amen. Il va donc insister sur l'idée qu'il a le droit d'être soutenu financièrement par l'Église.
So, Paul's insisting on the idea that he has the right to be supported financially by the church.
Il a déjà fait référence aux autres apôtres qui sont soutenus financièrement par les églises locales.
And he's already made reference to other apostles supported by the local churches.
Et puis verset 7, il va parler des coutumes humaines.
And then in verse 7, he starts talking about the customs of man.
Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce en homme que je parle ainsi? La loi aussi ne le dit-elle pas? On verra plus tard. Dans une armée, c'est le gouvernement qui paye. Quand vous avez fait votre, peut-être pas la guerre, mais votre service militaire pour les plus anciens, c'est pas vous qui avez acheté votre fusil.
You didn't buy your own gun.
Vous étiez soutenu par le gouvernement.
You were supported by the government.
Si vous êtes fermier et que vous plantez une vigne, vous allez en manger le fruit.
And if you were a farmer and you plant a vineyard, you're going to eat the fruit.
Vous n'allez pas aller au supermarché acheter des grappes de raisin.
You're not going to go to the supermarket to buy grapes.
Et puis, si vous avez un troupeau, si vous êtes berger,
and if you're a shepherd,
vous allez vous nourrir du lait du troupeau.
You will use the
Donc le bon sens montre que les hommes profitent de leur travail directement.
So common sense tells us that men live off the profit of their work, the benefits of their work.
Et puis il va faire appel à la loi de l'Ancien Testament.
And then he's going to call upon the law of the Old Testament.
Verset 9, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part.
He quotes from the Old Testament, you shall not muzzle the ox while he is threshing. God is not concerned about oxen, is he? Or is he speaking altogether for our sake? Yes, for our sake it was written. Because the plowman ought to plow in hope, and the thresher to thresh in hope of sharing the crops.
Cette semaine, on a eu l'occasion de voir des champs de blé.
This week we saw wheat fields.
Et c'était la saison de la moisson.
And it was the harvest time.
Il y avait des grosses machines qui venaient, qui roulaient le blé, qui le coupaient, le roulaient. Et c'est presque comme s'il y avait des baguettes qui sortaient à la fin de la machine.
Huge machines that rolled and cut the wheat.
Et à l'époque de Paul, le blé,
the cows or oxen walked on it.
Oxen. Mm-hmm. Et j'ai vu des photos qui montrent la même chose se passer en Provence, mais avec des chevaux de labour, et ils écrasaient le grain. Et l'idée, c'est que dans la loi, dans le Deutéronome, il était dit qu'il ne fallait pas fermer la bouche du bœuf quand il faisait ça. Il avait le droit de manger un peu du grain qu'il écrasait.
And there's a law in the book of Deuteronomy that said they didn't have the right to muzzle the oxen while they were walking over the wheat, but they had the right to eat some of it.
Cette semaine, on a ramassé quelques framboises.
This week we found and gathered some strawberries.
Raspberries. Et à un moment, j'ai pensé que ce serait bien de museler Sébastien. Mais je venais d'étudier ce passage.
But he had just studied this passage.
Lui me regarde en disant qu'il aurait bien aimé mettre un boucher ma bouche aussi.
Sébastien looking at Pierre thinking you're the one who needed a muzzle.
Et l'idée, c'est que toute peine mérite salaire. Si on est là à travailler, ben on mange quelques framboises.
And the idea is that all work deserves a salary. If we're gathering fruit, we should be able to eat some of it.
Et Paul dit en fait, est-ce que Dieu a écrit ce verset pour les bœufs?
So Paul's posing the question, did God write this verse for the oxen?
Pour la protection des animaux martyrisés? Il dit non, en fait, il l'a écrit pour nous.
And he's saying, no, in fact, he wrote it for us.
C'est à cause de nous que cela fut écrit.
It was for our sake that this has been written.
Celui qui laboure doit avoir une espérance d'en tirer un retour.
The one who works has the right to take a profit.
Et il dit au verset 11, si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels? Et donc l'idée, le principe de base,
so the basic principle,
c'est que si quelqu'un vous donne des biens spirituels,
is if someone gives you spiritual things,
ou vous les distribue,
or distributes them,
en retour, vous devez participer par des biens matériels.
In return, you should participate with material goods.
Et ça, c'est la question du soutien de l'Église.
And this comes to the question of the support of the church.
Paul, plusieurs fois, va dire que celui qui enseigne doit être supporté dans son enseignement par ceux qui reçoivent cet enseignement.
Paul says several times that the one who is teaching should be supported by those taught.
Et comme vous l'avez remarqué, ici, on n'aime pas parler d'argent. Mais le principe de la dîme reste le principe sur lequel l'Église peut fonctionner.
But the principle of tithing is the principle which allows the church to function.
À long terme.
In the long run,
nous sommes encore soutenus en partie par les États-Unis, des amis, des églises.
We are still supported in part by churches in the United States, by personal friends.
Mais un signe de santé, ce serait que éventuellement nous n'ayons plus à dépendre de ce soutien. Et le Seigneur nous a bénis par votre intermédiaire,
and the Lord has blessed us through many of you,
qui donne régulièrement la dîme. Pour l'instant, comme nous ne sommes pas encore officiellement une église, cet argent est bloqué sur un compte. Et nous dépendons toujours des personnes et des églises qui nous soutiennent.
And we personally depend still on these churches, American churches and individuals who support us.
Mais Paul le rappelle que c'est quelque chose de naturel.
But Paul's reminding them that this is something very natural.
Il dit, verset 12, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Il leur rappelle que les prêtres dans l'Ancien Testament, on l'a bien étudié en voyant le livre des Nombres.
He's reminding them about the priests in the Old Testament. We studied these in detail when we did the book of Numbers.
Et leur subsistance était assurée par une partie des offrandes qui étaient faites à Dieu.
They were supported by part of the offerings that were given to God.
Donc il a dit que les autres apôtres utilisent ce droit, les coutumes humaines font part de ce droit. L'Ancien Testament nous dit qu'il faut laisser manger le bœuf qui foule le grain. Les prêtres de l'Ancien Testament étaient nourris par la congrégation et leurs offrandes. Et puis il rappelle que le commandement de Jésus lui-même disait « L'ouvrier mérite sa nourriture ».
So Paul has gone through all these reasonings using all these examples, and then he says that the word of God itself proclaims that we should support the workers.
Et il dit que il explique verset 14 que ceux qui annoncent l'évangile doivent aussi pouvoir vivre de l'évangile.
And in verse 14 he says that those who proclaim the gospel should get their living from the gospel.
Et je vous ferai remarquer une chose importante, c'est l'ordre des choses ici. On annonce d'abord l'évangile.
First of all, the gospel is proclaimed,
et après, on peut en vivre.
And then they get their living from it.
Autrement dit, il y a d'abord le ministère.
In other words, first of all, there's the ministry,
avant qu'il y ait le soutien.
Before support.
Et ça peut être important pour des personnes qui auraient à cœur peut-être de partir comme missionnaire.
And that may be important for people who desire to go out as missionaries.
Qui voudraient devenir pasteurs, implanter des églises.
Or become pastors, plant churches.
Il faut d'abord qu'il y ait une preuve de leur ministère localement.
First of all, there has to be a proof of their ministry locally.
Et pour nous qui sommes appelés à peut-être à soutenir ces personnes,
and for those of us who are called to support these people,
nous ne devons pas dire « Ah tiens, toi, je te connais pas, mais tu veux partir missionnaire en Chine, voilà, je m'engage à te soutenir. »
You don't just say « Oh, you want to go to China, I don't know you very well, but I'll commit myself to support you as a missionary. »
Ce serait pas honnête.
That wouldn't be honest.
Il faut être sûr que la personne exerce déjà un ministère.
One has to be sure, first of all, that the person really has a ministry.
Peut-être même pas un ministère officiellement reconnu dans l'Église.
Maybe not a ministry that's officially recognized by the church.
Mais une personne qui encourage, qui travaille, qui aide, qui enseigne des enfants, qui...
A person that encourages, who works, who maybe teaches the children.
Et donc, il ne faut pas que la personne n'ait encore rien fait et décide qu'en se retrouvant en Chine, là, elle va devenir un évangéliste.
It's the idea that someone who locally in their church has never done anything isn't all of a sudden going to become a missionary in China.
Et donc, si vous sentez, on parle de Chine, il y a Yang. Bonjour Yang. Si vous-même vous sentez appelé à servir dans le ministère,
if you yourself think you're being called to serve in ministry,
de façon plus engagée,
in a deeper commitment.
Si vous vous dites que peut-être un jour vous aimeriez être missionnaire,
and if you're thinking someday you desire to be a missionary,
il est critique que vous commenciez à exercer vos dons dans l'église locale.
It's critical that you begin to exercise your gifts in the local church.
Pour que ces dons puissent être confirmés par l'église, l'assemblée locale.
So that your gifts can be confirmed by the local church, the assembly.
Pour que vous soyez connu et apprécié de vos frères dans l'assemblée.
And so that you can become known and appreciated by your brothers and sisters in the church.
C'est toujours gênant quand des gens ne connaissent d'une petite assemblée ne connaissent pas une personne qui désire être missionnaire quelque part.
It's always a little disturbing when the people in a small church don't know the individual who wants to go out as a missionary.
Donc d'abord le ministère, ensuite le soutien.
So first of all the ministry, then the support.
Paul a énoncé ses droits.
So Paul has listed his rights.
Et puis maintenant il va rappeler qu'il a renoncé à tous ses droits.
And then he's going to remind them that he renounced all these rights.
Verset 12, il nous dit, nous n'avons pas usé de ce droit.
In verse 12, he said that they did not
use this right.
Use their rights.
Verset 12. Et verset 15 aussi.
And also in verse 15,
pour moi, je n'ai usé aucun de ces droits. D'aucun de ces droits.
And he is saying that he did not take advantage of any of these rights.
Et il écrit, il rajoute, c'est un peu subtil, je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué.
And then he adds, I'm not writing these things that it may be done so in my case.
Autrement dit, il pleure pas sur lui-même en disant, j'ai renoncé à tous mes droits en espérant qu'ils vont lui dire, mais ah, bon, on va changer, hein.
In other words, he's saying he didn't give up all his rights in the hopes that people will gather around him and recompense him.
Et il nous dit ses raisons.
He gives his reasons.
Lisons les versets 15 à 18. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, je n'écris pas pour qu'ils me soient attribués, car j'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de gloire. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise. Je le ferai, si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est en évangélisant, d'annoncer gratuitement l'évangile, sans user du droit que l'Évangile me donne. Il veut que l'Évangile soit gratuit. L'Évangile, Paul l'appelle par moment l'Évangile de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
Paul calls the gospel the gospel of the good news of the grace of Jesus Christ.
La grâce, c'est recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas.
And grace is to receive something that we don't deserve.
C'est le mot qui est à l'origine du mot gratuit.
It's the word that is at the root of
free. Gratis. On dit quelque chose est gratis.
We say that something is free.
On dit en anglais gratis? Non. En français? Oui. On dit c'est gratis. C'est gratuit. Donc, comment faire payer pour annoncer que le don de Dieu est gratuit?
So, how can we ask people to pay when the gift of God is free?
Ça n'empêche pas beaucoup de personnes de monnayer l'Évangile.
It hasn't stopped a lot of people from using the gospel for their own advantage.
Et c'est plus marqué sans doute aux États-Unis, notamment.
It's probably more known in used in the United States.
Où des gens s'enrichissent en étant pasteur, en passant à la télévision.
Where people get wealthy by being a pastor, going on the television.
En sollicitant des fonds sans arrêt pour leur ministère.
And always requesting funds for their ministry.
Il veut donc que cet évangile que nous avons reçu gratuitement, les gens le reçoivent gratuitement.
So Paul desires that this gospel which we freely receive to be given freely.
Et dans le passé, nous avons eu des fois des groupes d'évangélisation qui sont venus, des musiciens.
And in the past we've had groups, evangelism groups, musicians.
Et nous aimons toujours pouvoir mettre à la disposition des audiences ces ministères de façon gratuite.
And we like to be able to present these ministries freely to people.
C'est aux chrétiens.
And it's the Christians.
De soutenir
these teams.
Alors c'est vrai, souvent on dit si c'est gratuit, les gens pensent que c'est de mauvaise qualité. On a eu des groupes de musiciens renommés.
We've had some really well-known musicians come.
Et quelque part c'était drôle de voir qu'ils se produisaient dans des écoles gratuitement. Mais c'est le cœur de Paul. Il veut pas que les gens aient à payer même pour entendre l'évangile. Et comme de nos jours, souvent on dit, oh, les prêtres ou les pasteurs, ils parlent que d'argent. Les prêtres traditionnels avaient des fois mauvaise réputation. Ils mangeaient de la viande deux ou trois fois par jour. Alors que les familles ordinaires en mangeaient peut-être une fois par semaine. Paul faisait de cette gratuité un sujet de gloire personnelle.
Subject of personal glory.
Quelqu'un a dit son salaire c'était de ne pas demander de salaire.
And someone once said his wages were in fact to not ask for wages.
Et puis il dit qu'il ne va pas prendre gloire de ne pas d'annoncer l'évangile.
And he's not going to take glory for announcing the good news.
Car il se sent contraint de le faire.
Because he feels constrained to do it.
Il est comme obligé.
He's required to do it.
C'est l'expression qu'il utilise, c'est comme lorsqu'on tord le bras à quelqu'un pour lui faire faire quelque chose.
And the term he's using is something that communicates the idea that like we twist your arm, you're required to do it.
Si je vous tords le bras pour faire la vaisselle,
if I have to twist your arm to do the dishes,
vous n'allez pas vous glorifier d'avoir fait la vaisselle.
You're not going to brag about having done them.
Et de la même façon, il dit, malheur à moi si je n'évangélise. C'est quelque chose qui est en moi, que je me sens redevable à Dieu, je me sens obligé. Une autre raison, c'était d'avoir la liberté de travailler de façon indépendante. Verset 19, il était libre à l'égard de tous.
In verse 19, he says, I am free from all men.
C'est vrai que si on est salarié de quelqu'un, on peut devenir l'esclave de ce groupe, de cette personne.
True that if we're paid by someone, we can become a slave to them or to the group.
Si tous mes revenus dépendent de l'assemblée qui est devant moi,
and if all my earnings come from the church in front of me,
peut-être que je vais éviter certains sujets qui peuvent fâcher.
Maybe I'll avoid certain subjects that can anger people.
Ou je vais faire plus attention à une personne qui a des moyens plus importants.
Or I might pay more attention to someone who is better off.
Paul lui dit, j'ai pas ce problème.
Paul says, I don't have these problems.
Et puis finalement, il va dire que son cœur, c'est de vouloir gagner le plus grand nombre à Christ.
And finally he's telling them that his heart is to win the most to the Lord.
Il dit, car bien que je sois libre, verset 19, à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'étais comme juif afin de gagner les juifs. À ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas même moi-même sous la loi, afin que ceux qui sont sans loi comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Et ce fameux verset, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part.
Paul, Pierre just read verses 19 through 23, which is summarized by the famous verse in 22. I have become all things to all men, that I may by all means save some.
Et dans ce passage, on peut retirer quelques leçons pour nous-mêmes. Comment partager notre foi avec ceux qui nous entourent? Première chose, qu'est-ce qu'il dit, verset 19, il s'est rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre.
First of all, in verse 19, he says that he became a slave to all that he might win the more.
Le serviteur, ça pourrait même être traduit l'esclave.
A servant, it's translated in some ways, can also be translated as a slave.
Et je sais pas, dans votre cas, dans votre conversion.
And I don't know about you in your conversion.
Mais dans mon cas, c'était une personne qui s'est mise à m'offrir ses services.
But for Pierre, it was due to a person who offered him his service.
Mon beau-frère qui était venu m'aider à installer un ventilateur.
His brother-in-law who came and helped him install a fan.
Et on peut faire beaucoup en servant les autres.
And you can do a lot by serving others.
Ça ouvre les cœurs, ça ouvre la porte.
That opens hearts, it opens doors.
Et donc si vous avez des talents,
and so if you have talent,
si vous avez le goût de servir les autres, ce soit pour aider avec Mike et Becky avec la peinture, vous me donnerez les 50 francs après. Non, non. Que ce soit pour préparer un repas à une personne qui revient de l'hôpital, comme Anissa. Installer un appareil électrique.
Or help someone install an electrical appliance.
Il n'y a pas de limite.
There's no limits.
Mais de l'aide pratique. Pas seulement des paroles.
Not just words.
Ça, c'est puissant.
That's powerful.
Et puis, il nous explique que quand il était avec les Juifs, il s'est conduit comme un Juif.
And then Paul explains that when he was with the Jews, he became as a Jew.
Quand il était avec des païens, des non-Juifs,
and then with the non-Jews,
il se comportait comme un païen.
He acted as a non-Jew.
Alors bien entendu, il ne faut pas dire qu'il était prêt à tous les compromis pour l'Évangile.
Of course, this doesn't mean that he compromised for the gospel.
Mais il s'identifiait avec eux.
But he identified with them.
On le voit dans le livre des Actes.
We see in the book of Acts,
quand il y allait dans les synagogues, il parlait de l'Ancien Testament.
When he went into the synagogues, he spoke about the Old Testament.
Il leur parlait de ce Messie qu'ils attendaient. Il leur disait, ben justement, il est là, c'est Jésus-Christ.
He talked about this Messiah that they were waiting for, and explained.
Quand il était avec les païens, chez les Grecs, par exemple, à Athènes.
And when he was with the Greeks, for example, in Athens.
Il allait trouver un point commun.
He found a common point.
Il y avait ce Dieu inconnu. Et tout de suite, il disait, voilà mon point commun avec vous, c'est ce Dieu inconnu, moi je le connais. Et donc, pour nous, l'idée c'est, est-ce qu'on peut établir un intérêt commun avec la personne à qui on veut parler de Christ?
And for us, we should be seeking a common point to establish a relationship with the person before we share Christ.
Si la personne s'intéresse au vélo et qu'on a un intérêt pour le vélo, ben on commence à parler de ça.
If a person has an interest in cycling and we do too, we could share that.
C'est ça que ça veut dire, se faire tout à tous afin de d'en sauver de toute manière quelques-uns.
And that's what Paul's expressing when he says he becomes all things to all people in order to win some.
Et puis il y a, c'est pas le tout d'être gentil, d'aimer le canyoning. Si on en reste là, la personne ne va pas connaître Jésus-Christ. Il faut annoncer.
We have to proclaim.
Il faut savoir dire qu'est-ce que c'est que nous croyons.
We have to know how to say what we believe.
Et nous l'avions un peu étudié ensemble l'an dernier.
And last year we studied together.
Dans le cadre de la campagne de Luis Palau.
When we were preparing for the Luis Palau evangelization.
Mais si quelqu'un vous demandait qu'est-ce que c'est que l'évangile,
if someone asks you, what is the gospel,
est-ce que vous pourriez répondre brièvement?
Can you reply briefly?
Paul, dans 1 Corinthiens 15, nous donne un résumé de l'évangile.
Paul gives us a summary of the gospel in 1 Corinthians 15.
Verset 3, Christ est mort pour nos péchés, selon l'Écriture.
Christ died for our sins according to the scriptures.
Il a été enseveli,
he was buried,
mais il est ressuscité le troisième jour.
But he was raised again on the third day.
Est-ce que vous pouvez expliquer ça à un voisin ou à un parent?
Can you explain that to a neighbor or a relative?
C'est très simple.
It is very simple.
Il est mort pour nos péchés.
He died for our sins.
Mais il est ressuscité, il est vivant.
But he is resurrected and he is alive.
Et donc, évangéliser, on n'a pas besoin de s'appeler l'apôtre Paul.
So to evangelize, we don't have to have an apostle Paul.
Mais il faut faire quelque chose.
But we have to do something.
Il faut se mettre en tête de parler de Christ.
We have to get it into our heads that we have to speak of Jesus Christ.
Pour avoir cette curiosité qui va faire qu'on va chercher à bâtir des ponts avec la personne.
And for people to become curious, we need to build bridges with them.
Peut-être que ça va me coûter quelque chose.
And it might cost me something.
Plutôt que de regarder mon programme favori à la télé, je vais parler avec mon voisin.
Instead of watching my favorite TV show, I'll take time to talk to my neighbor.
Au lieu de me reposer, je vais aller réparer la voiture, aider à réparer la voiture d'un autre.
Or instead of resting or laying back, I'll go help someone repair their car.
En tant que chrétien, notre plus grand droit,
as a Christian, our greatest,
c'est de renoncer à nos droits.
Our greatest obligation, right, is to renounce all our rights.
Nous l'avons vu, Jésus-Christ est notre exemple parfait.
And we've seen that Jesus Christ is our perfect example.
Mais nous-mêmes, nous devons aussi être prêts à renoncer à ce qui est normalement notre dû, un moment de repos.
We ourselves are called to renounce our rights, maybe resting.
Paul a renoncé au droit de ne pas travailler.
And Paul renounced his right to not work.
Parce qu'il avait cette passion de communiquer l'évangile.
Because he had this passion to communicate, preach the gospel.
Et la question pour moi, la question pour vous, c'est quand est la dernière fois que j'ai sacrifié quelque chose pour annoncer l'évangile?
And the question we should ask ourselves, me and all of us, is what is the last thing I had to sacrifice? To proclaim the gospel.
Peut-être j'ai sauté un repas pour prier pour une personne.
Maybe I skipped a meal and prayed for someone.
J'ai donné pour des missions pour assurer le salut des autres.
Or I gave to a mission to assure salvation for others.
J'ai renoncé à une soirée en famille pour venir à une réunion de prière.
Or I gave up an evening with my family to go to a prayer meeting.
Chacun à nous de voir ce que Dieu veut nous dire.
It's up to each one of us to listen to what God is asking of us.
Mais une chose est sûre, Jésus nous a dit,
but one thing is sure, Jesus told us,
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
We're more blessed in giving than in receiving.
Prions.
Let's pray.
Seigneur, merci pour cet exemple de Paul.
Lord, we thank you for Paul's example.
Et Seigneur, merci aussi de voir comment cet exemple peut se rapporter à ma vie personnelle. Et Seigneur, je te demande pardon pour tous les manquements dans ce domaine. Les moments où j'ai préféré des plaisirs égoïstes, même s'ils étaient légitimes, Seigneur, donne-moi ce zèle que Paul avait pour l'Évangile. Seigneur, montre-moi dès aujourd'hui une façon pratique de renoncer à mes droits par amour. Pour que je sois un vrai témoin de toi, Seigneur. Et nous prions ces choses par le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Qu'il vous rappelle ce message de Paul. Je suis sûr qu'il va le faire. Amen. Nous allons maintenant prendre un peu de café, des rafraîchissements. Et je crois qu'il y a une liste à l'arrière pour ceux qui voudraient s'inscrire pour s'occuper des enfants dans les semaines à venir. Ou est-ce qu'il y a besoin? Non, tout est complet.
D'une...
Voilà, je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de personnes maintenant. Que Dieu vous bénisse.
The Lord bless you.